DW, l'arbre à palabre.
Bonjour, c'était dimanche 29 septembre 2019. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, sort de prison au bout de 936 jours passés derrière les barreaux. Le président du Sénégal, Macky Sall, venait de décréter une remise totale des peines principales retenues contre l'opposant et ses co-accusés. Quelques jours auparavant, le 27 septembre, lors de l'inauguration de la nouvelle grande mosquée de Dakar, construite par la confrérie soufie des Mourides, le président sénégalais était apparu main dans la main avec son prédécesseur Abdoulaye Wade, avec qui il s'est pourtant brouillé depuis 7 ans. Une autre surprise qui laissait déjà espérer un changement dans la situation de Karim Wade fils. Soudaine décrispation du paysage politique qui confirme par ailleurs qu'au Sénégal, pouvoir et religion sont fortement en contact, même si en Afrique, le Sénégal ne fait pas exception dans ce domaine. C'est en tout cas la problématique au centre de nos discussions aujourd'hui. Discussion avec nos 3 invités, jusqu'où conduira cette relation pouvoir-religion ou quel est l'avenir de cette relation pouvoir-religion au Sénégal. Fatou Sow Sarr, socio-anthropologue et féministe, directrice de l'Institut Genre et Famille. Madame Sow Sarr, bonjour.
Bonjour.
Abdulaziz Kébé, docteur en droit, spécialiste des civilisations islamiques, délégué général du pèlerinage à la Mecque et ancien conseiller principal à la primature sénégalaise sur les questions religieuses. Monsieur Aziz Kébé, bonjour.
Bonjour.
Et Abdoulaye Sounaï, expert au centre Leibniz de l'Orient moderne basé à Berlin, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Vous êtes spécialiste des dynamiques religieuses en Afrique de l'Ouest. Abdoulaye Sounaï, bonjour.
Bonjour.
Au micro, Fréjus Kenom, merci à tous nos invités et à tous nos auditeurs de nous rejoindre pour cette émission. DW. Ma première question à Madame Fatou Sow Sarr, est-ce que vous êtes satisfaite que grâce au contact qu'aurait pris la confrérie soufie des Mourides ou le calife général des Mourides, que grâce à ces contacts, il ait pu y avoir cette soudaine décrispation du paysage politique au Sénégal?
Oui, bien sûr, je crois comme beaucoup de Sénégalais, parce que nous pensons que Khalifa Sall n'a pas sa place en prison. Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est le fait que cela se fasse autour d'une question qui était l'inauguration d'une mosquée, qui représente pour moi un symbole du futur du Sénégal, parce que ça permet de renouveler le modèle de cohésion sociale que nous avons. Les grandes confréries religieuses ont été à cette inauguration, et les chrétiens aussi ont communié avec l'ensemble des Sénégalais. C'est-à-dire qu'il y a une symbiose de l'ensemble des familles religieuses musulmanes ou chrétiennes autour de ce phénomène-là, que ça a permis la décrispation, parce que ça a été l'aboutissement certainement d'un processus assez long, puisque nous savons que dès l'enseignement de Khalifa Sall, le défunt Khalifa général de Tidiane, Abdelaziz Al-Amin, avait initié des actions en direction du président de la République. L'actuel Khalife des Mourides, qui est aussi le guide d'un des détenus Mai Touré, avait aussi proposé des demandes. Je crois que c'est l'aboutissement d'un processus, mais le fait qu'un espace religieux en soit le symbole, c'est extrêmement important pour nous par rapport à l'histoire du Sénégal, par rapport à la place de la religion, par rapport à la place des communautés religieuses sur la construction de la stabilité du pays.
Très bien, merci beaucoup. Fatou Sow Sarr a rappelé les contacts ou la médiation entreprise par les leaders religieux au Sénégal. Mais il y a aussi, hors du Sénégal, une plainte qui a été déposée au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et cette juridiction avait même demandé au Sénégal de remettre en liberté Khalifa Sall, dont la détention était jugée illégale. Mais Abdoulaziz Kébé, finalement, on dirait donc que c'est le contact des leaders religieux qui a été le plus décisif. Comment est-ce que vous voyez ce dénouement?
Merci. Je pense que c'est en droite ligne, en tout cas, des prérogatives des autorités religieuses, qui sont des régulateurs sociaux, d'intervenir dans les situations pareilles pour essayer de réconcilier s'il y a des éléments de conflit dans la société qui pourraient entraîner une instabilité quelconque. Donc, c'est en droite ligne de ce que l'on attend d'eux. Et je pense que c'est quelque chose qui se fait toujours à côté ou en marge des autres tractations possibles, que cela soit des tractations d'ordre politique, que cela soit également des démarches qui entrent dans le cadre judiciaire, je pense que c'est des complémentarités dans le sens de trouver en tout cas une issue favorable qui permettrait de consolider la cohésion sociale dans ce pays.
Merci Abdoulaye Sounaï. Que pouvez-vous nous dire de ce rôle dont parlait Abdelaziz Kébé, de ces prérogatives reconnues aux leaders religieux, à tel point qu'on attend d'eux une certaine contribution pour l'apaisement lorsqu'il y a conflit? Que pouvez-vous nous dire de ce rôle?
Oui, en fait, si on regarde un peu l'histoire, et même je dirais la géographie de l'islam en particulier dans cette région-là, on voit très bien que la religion et l'islam, plus précisément le pouvoir du religieux, c'est une ressource importante qui participe de la vie quotidienne, de la vie politique, de la vie économique.
Je rappelle, monsieur Abdoulaye Sounaï, qu'au Sénégal, il y a 90% de la population qui pratique la religion musulmane.
Oui, exactement. Et donc, pour cela, je pense qu'on ne devrait pas être surpris de voir un acteur religieux intervenir et influencer une décision politique. Donc, ce qui est arrivé au Sénégal, moi, ça ne me surprend pas. Je crois que c'est dans l'ordre normal des choses dans cette région-là, même si par ailleurs, on veut toujours qu'il y ait une certaine laïcité qui contredise l'intervention de ces acteurs-là dans l'espace religieux.
Au Sénégal, nous parlons donc du pouvoir des acteurs religieux musulmans. Dans d'autres pays, la République démocratique du Congo nous a présenté une situation où c'est l'Église catholique qui était, disons, au devant de la scène. Dans d'autres pays, l'Église protestante est souvent en action. Mais revenons pour le cas du Sénégal. Le Fatou Soussar, Monsieur Abdoulaye Sounaï a évoqué l'avis de certains qui sont un peu frileux quand on voit les religieux, dans le cas sénégalais, entrer sur la sphère politique de cette manière. Ils craignent une disparition de la laïcité parce que le Sénégal est un pays laïque, est une république laïque, n'est-ce pas, Madame Sousa?
Oui, dans la Constitution, nous avons une laïcité héritée du modèle français. Mais disons-nous que le modèle français n'est pas le seul modèle de laïcité. Quoi qu'il en soit, l'esprit de la laïcité qui, pour nous, assure la coexistence pacifique d'ensemble de croyances est plus ancien que le modèle colonial. En réalité, ce qu'on appelle les catégories religieuses, déjà par le passé, bien avant l'arrivée de la colonisation, étaient avec le pouvoir féodal, le pouvoir aristocratique ou le pouvoir païen de l'époque. Et il y avait une considération pour ces religieux au point qu'ils leur concédaient des terres et ils assuraient leur protection. Et comme c'était des lettrés, c'est eux qui leur servaient de scribes et qui leur servaient aussi de juges. Ça veut dire, il faut voir l'esprit sénégalais. Pour ces païens qui ne croyaient pas à la religion musulmane, ou en tout cas pas totalement, mais qui reconnaissent la sagesse de ces représentants de la religion au point d'accepter qu'ils soient les juges dans le royaume. Donc c'est une relation plus ancienne que le modèle colonial. Et aujourd'hui, c'est ça qui permet de comprendre la spécificité du Sénégal, l'implication du religieux dans l'espace politique. Mais en fait, c'est que ces hommes religieux ont été pendant très longtemps les défenseurs des populations. C'est eux qui représentaient ce qu'on appelait la société civile, c'est-à-dire face au pouvoir autoritaire de l'époque. C'était eux, quand la population était brimée, qui leur servaient de refuge. Et face à la colonisation aussi, ce sont ces mêmes religieux qui sont apparus comme les protecteurs des populations. Donc, comprendre le modèle de la laïcité sénégalaise, il faut remonter à toute cette histoire pour qu'on puisse rendre compte que la coexistence pacifique des différents modèles, en tout cas, est antérieure à ce que le modèle français est en train de nous enseigner et peut-être que d'autres ne pourraient pas comprendre, mais que nous, Sénégalais, comprenons parfaitement.
Mais est-ce qu'il ne faut pas faire disparaître le terme laïcité de la Constitution? Je sais qu'il y a eu déjà un mouvement comme ça, en ce sens, au Sénégal, mais ça n'avait pas abouti parce qu'il y a eu un tollé qui a fait qu'il fallait réinsérer le terme, le principe de la laïcité dans la Constitution. Mais est-ce que ce qui se passe dans les faits correspond à cette Constitution encore, Madame Fatou Sousa?
Moi, je pense que oui. Ça dépend du contenu qu'on met dans la laïcité. Puisque la laïcité, c'est l'État pour nous qui permet aux différentes croyances de pouvoir vivre de manière en bonne intelligence, absolument oui. Le modèle français ne saurait être, à mon avis, le modèle universel. Il n'est pas question non plus de dire que le Sénégal va être un État religieux ou théocratique. Donc, à mon avis, l'esprit de la laïcité tel que nous la comprenons de manière intelligente a permis au Sénégal d'être ce qu'il est aujourd'hui, cette exception dans un monde où les turbulences sont là à tout moment.
Abdoulaye Sounaï, rapidement, est-ce que vous comprenez donc cette spécificité que décrit Mme Fatou Sossar au Sénégal en ce qui concerne la pratique de la laïcité?
Je suis absolument d'accord avec elle et je pense qu'il est très difficile d'accepter une sorte de laïcité qui serait un prêt-à-porter, importé de la France et qui s'appliquerait à des situations comme celle du Sénégal et de laquelle on espérait trouver une explication des dynamiques sénégalaises. Je pense donc qu'il faut s'arrêter. Ce n'est pas le mot et le concept même qui importe dans ce contexte précis, ce sont les pratiques. Comment est-ce que le pouvoir religieux, par exemple, est en rapport avec le pouvoir politique? Comment est-ce que le pouvoir religieux entretient-il une certaine idée de république, par exemple? République dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire une chose qui serait publique et qui serait partagée et par conséquent, comme Mme Saul le rappelle, qui permettrait une coexistence pacifique entre les différents citoyens dans la société. Donc je pense qu'il est important de rappeler ces histoires, entre guillemets, religieuses des sociétés auxquelles on a voulu appliquer la laïcité pour expliquer certaines situations qui, parfois, ne sont pas des situations qui ont gardé une certaine mémoire de l'histoire. Je pense que ce qu'elle dit du Sénégal pourrait très bien s'appliquer à des pays comme le Niger, le Mali, la Guinée ou la Côte d'Ivoire.
Merci, Abdelaziz Kébé. Votre point de vue sur ce principe de la laïcité et la façon dont elle vit au Sénégal, croyez-vous que la laïcité vit au Sénégal avec des situations comme celle à laquelle on a assisté le 29 septembre 2019 où ce sont les leaders religieux qui finalement ont décanté une situation qui était verrouillée par la justice, qui était verrouillée par le politique?
Bien, moi je pense qu'il faut toujours qu'on apprécie la laïcité de façon plus rationnelle qu'émotionnelle. Je pense que les écritures, c'est-à-dire le fait de créer de nouvelles lois ou de mettre dans la Constitution le concept de laïcité, cela n'efface pas les habitudes que les Sénégalais ont de voir vivre dans une dynamique harmonieuse un pouvoir politique qui n'est pas religieux et une autorité religieuse qui est à côté et qui aide ce pouvoir politique à asseoir en tout cas une société stable où la cohésion existe. Je pense qu'il y a une histoire de la société sénégalaise qui fait que dans la tradition, les pouvoirs locaux traditionnels, qui n'étaient pas des pouvoirs religieux, ont su comprendre qu'une grande partie de la société sénégalaise avait une croyance, disons une façon de vivre qui était empreinte d'une certaine religiosité et ils se sont appuyés sur les autorités de cette religion-là, qui était en l'occurrence l'islam, pour pouvoir asseoir une cohésion au niveau de la société. Et je ne vois pas en quoi cela pourrait gêner la laïcité, si tant est que la laïcité, c'est une possibilité d'avoir une équité entre toutes les croyances et de ne pas permettre à l'État d'avoir une religion, de pencher pour une religion contre une autre, mais de gérer de manière équitable toutes les croyances et de sortir l'État de toutes les pratiques religieuses, de toutes les idéologies religieuses. Et je pense que dans ce sens, le Sénégal ne fait pas exception. Dans les pays européens, nous avons des modèles de laïcité qui nous font voir que dans la société, les autorités religieuses ont leur part de responsabilité, ont le rôle en tant que régulateur, mais ne participent pas au fonctionnement de l'État en tant que tel. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose pour nos pays qui sont des pays où la religiosité est presque à fleur de peau.
Alors, à y voir de près, on constate que cette puissance ou cette influence dont bénéficient les leaders religieux s'explique également par tout ce que fait la religion au sein de la société, y compris du point de vue social. Est-ce que, Fatou Sossar, la religion ou les religieux sont en train d'avoir peut-être plus de pouvoir, plus de mainmise que le politique?
Évidemment, il y a des moments où il y a une domination, je ne parlerai pas de domination, en tout cas, il y a des moments où le pouvoir religieux se manifeste de manière beaucoup plus importante. Nous l'avons vu au moment où Abdou Diouf arrivait au pouvoir. Nous avons assisté au fameux Ndigal de Abdoulaye Mbacké, où une confrérie a donné des directives en direction d'un candidat.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que cela convient?
Je crois que quelle que soit la société, les hommes politiques sont en train de chercher des électeurs. Et il y a des pays où il y a des grands électeurs qui se manifestent d'une manière ou d'une autre. C'est des lobbies ailleurs. Et on peut considérer les religions aussi comme des formes de lobby. Avant de poursuivre, je dirais qu'il ne faut pas quand même exagérer cette sortie de Khalifa Sall et cette réconciliation de Wade et de Macky Sall comme étant uniquement le fait des religions. Pour moi, les religions ont rendu cela possible au moment où le politique n'avait plus d'autres possibilités. C'est ça l'intérêt pour moi des mécanismes religieux, parce qu'ils nous permettent des moments de respiration quand la société est totalement coincée. Peut-être que le politique avait eu aussi son agenda, et c'est le contexte social économique qui peut-être aujourd'hui exige du président de la République qu'il lâche du reste. Mmh. Mais l'influence, ça fait du haut et du bas. Il y a des moments où le religieux a paru très fort. On a vu des religieux démettre des personnes de leur poste de responsabilité, refuser que des personnes entrent dans le gouvernement. Et des religieux aussi permettent à des personnes d'entrer dans le gouvernement. Donc ce n'est pas quand Abdelaziz dit que oui, les religieux n'interfèrent pas dans le politique, peut-être que j'ai très mal compris. Ils le font de manière soft, ils le font de manière douce, mais on sait très bien qu'il y a dans les gouvernements, les religieux ont de l'influence. Ils font en sorte que leurs adeptes, en tout cas leurs fidèles, puissent accéder à certains. Ils influencent le gouvernement d'une manière ou d'une autre, parce que ce gouvernement-là aussi, à un moment donné, aura besoin d'eux au moment des élections. Sauf que pour le moment, le gouvernement ne perd pas la face, puisqu'il apparaît comme étant le seul détenteur du pouvoir de responsabilité. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. À mon avis, c'est des rapports de force.
Voilà, Abdelaziz Kibé, une réaction par rapport aux propos de Fatou Sossar, puisqu'il y a bien une contrepartie dans ces interventions du religieux. Et est-ce que cette contrepartie qui se manifeste lorsqu'elle dit, par exemple, qu'il y a des nominations ou bien des limogeages qui passent par l'acteur religieux?
On ne peut pas occulter le fait que les autorités religieuses ont une influence sur les populations sénégalaises et l'autorité politique qui a besoin de son électorat a besoin de la population sénégalaise. Et cette population sénégalaise répond, pour une grande partie en tout cas, de l'influence de l'autorité religieuse. Par conséquent, il y a un jeu d'équilibre entre l'autorité religieuse et l'autorité politique, mais tout cela concourt à une seule et même chose. C'est quoi? C'est la stabilité de la société sénégalaise, c'est la cohésion entre les différentes composantes de la société sénégalaise. Ceux qui animent l'État eux-mêmes appartiennent à ces différentes confréries, appartiennent à ces différents courants et ils respectent également les mots d'ordre ou en tout cas le modus vivendi dans ces courants religieux et dans ces confréries religieuses.
Je rappelle un peu dans la succession des chefs d'État, vous me corrigez si je dis quelque chose qui est faux, le président Senghor du Sénégal, il était catholique, son successeur Abdou Diouf, je crois, était de la confrérie des Tidianes, Abdoulaye Wade est de la confrérie des Mourides, Macky Sall, de quelle obédience est-il, Abdelaziz Kébé?
Mais vous savez, mon cher, l'appartenance à une confrérie n'a jamais été déterminant dans ce choix pour les chefs de l'État. Mmh. Je rappelle d'ailleurs le mot d'une autorité religieuse du Sénégal. Dans la compétition entre Senghor et Lamine Gueye, certaines franges de la population lui disaient « Pourquoi vous choisissez Senghor qui est catholique à la place de Lamine Gueye qui est musulman ?» Il répond « Nous, on ne nous a pas demandé de choisir un imam pour la mosquée, on nous a demandé de choisir quelqu'un pour les affaires publiques. Et pour cela, on regarde quelles sont les compétences, qui est le mieux armé, en tout cas, pour les compétences de gérer la société, l'État et les différentes parties de la société. Donc, l'appartenance confrétique n'a jamais été déterminante, en tout cas, dans le choix du président de la République. Oui. Le président de la République, Tidiane Mouride, ou même catholique, l'essentiel, c'est que son projet soit accepté par la majorité des Sénégalais. Mmh.
Mais vous voulez répondre à notre question, pour notre propre gouverne, Macky Sall, il est de quel côté?
Oh, il ne me l'a pas dit.
Il ne vous l'a pas dit, bon, d'accord. Mais Abdoulaye Sonaï, par rapport à la pratique démocratique, quel problème pose ce qu'expliquait Abdelaziz Kébé tout à l'heure? Lorsque l'électeur, par exemple, qui a entendu un discours politique lors d'une campagne électorale et qui finalement agit dans l'urne, pas forcément en fonction de l'analyse qu'il fait du discours politique, de campagne qu'il a entendu, mais plutôt de la consigne qui a été donnée par l'acteur religieux. Est-ce que nous sommes encore là dans une pratique démocratique?
Bon, peut-être avant de répondre à cette question, je voudrais simplement vous rappeler, bon, ce qu'on a fait jusque-là, c'est de parler de l'influence des religieux.
Oui.
Mais peut-être qu'il faut garder à l'esprit, hein, je crois, avec le cas de Khalifa Sall ou sa libération, on oublie peut-être aussi que Macky Sall est en train de récolter quelque chose à travers ce geste-là, ou qu'il attend quelque chose de ce geste-là. Il pourrait très bien être un disciple, et vous voyez le rapport qu'il y a entre le disciple et le marabout pourrait être ici un enjeu important. Donc, il se pourrait très bien que, en prenant cette décision-là, Macky Sall est en train de faire un investissement politique, peut-être.
Bon, pour l'avenir, juste, parce qu'il est en train de faire son dernier mandat.
Oui, peut-être, mais même au-delà de la sphère politique, pouvoir accéder à une demande ou à une requête d'une autorité religieuse, je crois que ça ajoute à sa crédibilité, à son poids auprès de cette conférence.
Disons que les deux côtés s'attendent à une contrepartie, l'acteur religieux et l'acteur politique.
Probablement. Je crois qu'on pourrait très bien voir la situation de ce point de vue-là. Maintenant, en ce qui concerne la valeur démocratique de la consigne, tout dépend de ce qu'on veut dire par démocratie. Mais nous savons très bien qu'il y a tout autant de votes religieux que de votes ethniques, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le véritable problème se trouve au niveau de quels sont les garde-fous qu'on met pour éviter que certaines appropriations de ce pouvoir religieux-là enlèvent la substance à la compétition politique.
C'est plutôt difficile.
Oui, c'est plutôt difficile. Effectivement, on voit très bien que le religieux, du fait qu'il ait un pouvoir et une ressource, il peut fausser le jeu démocratique.
Alors Fatou Soussar, vous, sociologue, socio-anthropologue, est-ce que vous avez la recette? Est-ce que vous savez comment faire pour que le fonctionnement politique ne soit pas, excusez du terme, corrompu par d'autres interférences?
Bon, avant cela, moi je dirais que vous avez posé la question de à quelle confrérie appartient Macky Sall.
Oui, vous avez l'information.
Comme sociologue et comme observateur, Macky Sall, pour moi, est au-dessus de confrérie, dans la mesure où il a tenu à se présenter comme appartenant à plusieurs confréries à la fois. Il est allé chez les Mourides pour dire qu'il a fait son djebolou. On le voit à Medjugorje, on le voit avec la famille Omarienne. Donc, à chaque fois, il est apparu comme étant un fidèle de chacune des confréries où il s'est rendu. Si on fait l'analyse de la somme de tout cela, il appartient à toutes les confréries ou il n'appartient à aucune confrérie. En tout cas, ce qui est certain, il s'est utilisé de manière politique l'instrumentalisation des confréries pour son projet politique. Maintenant, un pays, c'est aussi une identité. Et les religions font partie, l'islam fait partie de notre identité.
Qu'on
ne peut pas dissocier ce pays qui s'est stabilisé, nous la devons aux confréries. Parce que ce sont les confréries qui nous ont permis, au-delà du brassage ethnique et culturel que nous avons eu, de fédérer l'ensemble des appartenances ethniques autour d'un seul guide. À partir de ce moment, nous devons au contraire considérer cela comme une chance. Pourquoi ne pas continuer avec?
Monsieur Abdelaziz Kébé, Madame Soussard disait tout à l'heure que ces confréries sont même le socle de la stabilité du Sénégal. Qu'est-ce que vous avez à donner comme réaction?
Elle a parfaitement raison. L'identité confrérique efface toutes les autres identités secondaires. Et tout cela permet également d'avancer vers une seule et même nation. Les confréries, de mon point de vue, sont un atout pour le Sénégal d'aujourd'hui. Et je suis entièrement d'accord avec Mme So quand elle dit que le modèle politique doit être pensé de chez nous, par nous-mêmes, et ne pas être
imposé de l'extérieur. On a le cas au Mali, par exemple, de l'imam Mamoun Diko, figure importante de la sociologie malienne, qui est en train de faire le pas sur le terrain politique. Est-ce que, Abdoulaye Sounaï, vous sentez ce cheminement venir également dans un pays comme le Sénégal?
Ou peut-être le Sénégal a déjà eu ce type de figure, mais qui ne se sont pas exprimés de la même façon. Il y a eu des personnalités qui ont émergé et qui ont essayé d'avoir une influence politique directe, parfois en dehors même du cadre établi par les confréries. Je pense qu'une dimension importante de ce dont nous sommes en train de parler ici, c'est de reconnaître le fait que le Sénégal, il faut le dire, a réussi à construire son modèle politique au sein duquel, je crois, s'exprime une certaine créativité dans le rapport qu'il y a entre l'État, par exemple, et la religion. Bon, on parle beaucoup du contrat social, mais je pense qu'on pourrait très bien aussi parler du contrat politique sénégalais, qui est différent, par exemple, du contrat politique malien ou nigérien, ou même nigérien. Si on fait le parallèle entre le Sénégal et le Nigeria, on voit très bien, malgré les oppositions de tendance ou de courants religieux, on trouve toujours que la religion, c'est un capital, c'est une ressource. C'est le lieu d'une imagination et d'une créativité politique. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest et aussi bien au Mali, comme vous le dites.
Ce sera la fin de cette émission consacrée au Sénégal et à l'influence des leaders religieux. Vous êtes tous de l'avis que ce n'est pas une mauvaise direction que prend le Sénégal et que l'influence remarquée au niveau des religieux est sécrétée par l'histoire même du pays. Nous étions avec Abdoulaye Sounaï, expert au Centre Leibniz de l'Orient moderne à Berlin, Abdulaziz Kébé, docteur en droit, spécialiste des civilisations islamiques et délégué général du pèlerinage à la Mecque, et Fatou Soussar, socio-anthropologue sénégalaise. Merci à tous d'avoir été de la partie. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine pour un autre débat sous l'arbre à palabres.